Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Pour votre journal des idées, vous nous emmenez en Syrie ce matin, alors que l'assaut a été lancé par la coalition arabo-kurde contre le dernier réduit du groupe État islamique en Syrie. Le scénario de l'exfiltration des anciens combattants de l'organisation se précise, Jacques.
Oui, d'après Le Monde, ce serait dans le cadre d'une opération internationale coordonnée, notamment appuyée par les États-Unis. Selon cette hypothèse reposant sur un accord entre alliés, il s'agirait d'organiser une sorte de pont aérien permettant l'évacuation des djihadistes étrangers de Syrie. Un système qui aurait l'avantage de pallier le manque de moyens de certaines nations pour récupérer leurs djihadistes et d'encadrer la sortie des personnes concernées avec toutes les garanties du droit international. Alors que la France freinait des quatre fers sur les rapatriements de djihadistes, arguant qu'ils pouvaient être jugés sur place et que seuls les enfants pouvaient faire l'objet d'une exfiltration, l'annonce par le président américain du retrait des troupes américaines de Syrie a accéléré le calendrier et modifier la position française. Ce qu'on redoute aujourd'hui, c'est que les Kurdes, jusque-là soutenus par les États-Unis, relâchent la surveillance des combattants étrangers dans leur camp, avec à la clé un risque d'évasion et de dispersion. Sans confirmer l'information, rapporte Courrier International, le ministre français de l'Intérieur a déclaré mardi que ceux qui rentreront en France seront judiciarisés et confiés aux juges. Interrogé par le quotidien britannique The Telegraph, un responsable de la place Beauvau a précisé qu'aucun détail pratique n'a été arrêté pour l'instant, ni la nature des opérations visant à les rapatrier, ni le nombre exact de personnes concernées, ni la date. Environ 130 ressortissants français, une cinquantaine d'adultes, hommes et femmes, et une dizaine d'enfants sont détenus par les forces démocratiques syriennes, majoritairement kurdes. Mais comme le rappelle Le Point, leur nombre pourrait augmenter alors que les dernières poches du groupe État islamique, désormais acculées sur un territoire de 4 km², sont en train de tomber. L'hebdomadaire indique que face à la menace turque, les Kurdes syriens négocient un accord sécuritaire avec le régime de Damas, qui pourrait alors mettre la main sur des centaines de djihadistes. Si l'on se souvient que, dès le début de la révolution syrienne, ce régime avait libéré les plus dangereux d'entre eux afin de grossir les rangs de l'État islamique et d'ouvrir un nouveau front dans le pays pour apparaître comme le recours, on ne peut que s'inquiéter de son pouvoir de nuisance s'il venait à récupérer d'ex-combattants de l'organisation. Parmi les djihadistes retenus par les FDS figurent plusieurs responsables français de l'État islamique, dont Adrien Guial, membre de la filière d'Artigat, qui a planifié plusieurs attentats en France, dont celui de Nice, rappelait The Telegraph. La dernière livraison de la revue Ethnologie française est consacrée aux effets sociaux des attentats. Contribuent-ils à renforcer la cohésion nationale ou font-ils apparaître des clivages plus profonds, comme après l'attentat de Charlie Hebdo avec les débats autour d'être ou ne pas être Charlie. Une fois passé l'effet de souffle de l'événement, ces attaques laissent place à des conflits d'interprétation et des débats contribuant à en amplifier l'impact social, relève Jérôme Truc, qui insiste sur l'intérêt de la démarche ethnographique de terrain et qualitative par rapport aux enquêtes quantitatives fondées sur les sondages d'opinion. À la thèse classique de Georg Simmel sur les effets fédérateurs d'une attaque extérieure, le travail de terrain et les études de cas viennent apporter des nuances significatives. Randall Collins, qui a étudié les effets des attentats du 11 septembre sur la société américaine, souligne que tout conflit n'augmente pas en soi la solidarité de groupe. L'élément clé de ce processus est l'incident déclencheur, mais la solidarité est produite par les interactions sociales au sein du groupe, pas par le conflit en lui-même en tant qu'événement extérieur. Dans l'enquête conduite par Nancy Foner après le 11 septembre, il apparaît que l'impact de l'attentat dans la population new-yorkaise a considérablement varié selon le groupe social ou professionnel ou selon le quartier que l'on considère. Ceux qui étaient déjà dans des positions de marginalité, de vulnérabilité, les travailleurs immigrés de Chinatown ou les arabo-musulmans de Jersey City par exemple, ont ainsi plus durement souffert de leurs conséquences que d'autres new-yorkais, même plus directement exposés aux attentats. Greg Smith-Misson, qui a mené l'enquête dans le quartier UP de Battery Park City, voisin du World Trade Center, et où de nombreux habitants ont eu à déplorer des victimes parmi leurs proches, a montré comment l'entre-soi de classe a pu les aider à surmonter l'épreuve jusque dans le rejet des autres New-Yorkais amenés à traverser leur quartier, à faire usage de ces espaces publics, notamment en période de commémoration, des passants recueillis, alors désignés comme des touristes.